Henri Michaud, Équador. Journal de voyage, 1929-1968. Premier voyage en pirogue. On nous prêta pour aller au Napo la pirogue et les hommes de la ferme des Salvador. Les Boga, rameurs, étaient de beaux hommes, mais de médiocres Boga. Ils hésitaient constamment sur le bras de la rivière qu'il fallait prendre. À un tournant, le Popero, l'homme de poupe, tomba à l'eau. On ne s'en aperçut que bien plus tard. On lui demandait « à gauche ou à droite ?» Mais sa tête était à 400 mètres derrière et seule hors de l'eau. La rivière était basse. Parfois, on s'arrêtait brusquement, comme saisi par une main. Au passage des rapides, et sur le Satsayaku, il y en a tous les 300 mètres, le canoë glissait sur le fond comme un homme qui tombe d'un escalier étendu sur le dos. Les vagues, petites mais furieuses, en éclatant contre les bords, nous mouillaient complètement. Le Chuntunyaku, en se jetant dans le Satsayaku, forme le Napo. Il s'y jette comme un furieux et son courant le traverse de part en part. Les deux rivières luttent. Toute la surface de l'eau est taillée de vagues. On se croit venu à la mer. Sitôt formé, le Napo tombe. On entra dans le courant comme dans un engrenage. Sa brusquerie me renversa sur le dos comme je tendais à G son Kodak. Couché dans le fond de la pirogue, j'aurais juré qu'elle ondulait. Aussitôt dépassé la jonction, il fallut écoper vivement, car on était au ras de l'eau. Le village Napo est à un quart d'heure de là. Puerto Napo, Port Napo, dimanche. Nous arrivâmes pour la première fois à Puerto Napo dans l'après-midi. Nous comptâmes 7 cabanes. Des pirogues, il y en avait un peu plus, une douzaine. L'habitation la plus large portait une grande inscription « Refatura Politica ». Le préfet nous reçut. Après avoir pris connaissance de la lettre du ministre que nous lui apportions, il fit, débarrasser de sacs de je ne sais quoi, une pièce où nous allions dormir. Nous restâmes avec lui dans une autre, ouverte de toutes parts. Un vampire volait entre le toit et nous. Il y avait un phonographe. On le remontait et le rechargeait pour nous sans discontinuer, même pendant le repas. Je me demandais ce que je faisais là. L'air devenait opaque. Ce phonographe fournissait de femmes blanches le préfet et les deux colons hollandais. On sentait qu'il les faisait venir. Ce phonographe fournissait de femmes blanches le préfet et les deux colons hollandais. On sentait qu'il les faisait venir. Mais pourquoi ne retournait-il pas à la capitale, alors, s'ils aimaient tant les femmes? Nous nous excusâmes bientôt. Le phonographe se tut et immédiatement la brousse rappliqua de tous côtés. Dans le bas, le fleuve soufflait. Une crue pour demain. Nous entrâmes dans la pièce qui nous avait été préparée. Machinalement, avant de se déshabiller, on sortit ses lampes de poche et l'on éclaira les parois. Ceci fait, moi, j'allumai une cigarette. « Oh, quelle histoire !» cria André, et Gustave, je crois, a dû rire. Son rire est jeune et va bien partout. Puis nous regardâmes la situation en face. Il y avait là quelque chose comme 200 ou 300 araignées, grosses comme des paquets de caporal et velues, chacune et son trou d'ombre. Ce relief se mouvait très peu. A suppliait qu'on laissât les bougies allumées toute la nuit. A et Casco, mais les petites bêtes, ils n'aiment pas ça du tout. G et moi sortîmes les machettes et nous mîmes à taper dans le tas. Des deux, trois pattes par-ci, des quatre, cinq pattes par-là, des têtes, des morceaux gluants tombaient partout. Des abdomens sanglants se retiraient avec peine derrière les bambous. Parfois, pour les araignées qui étaient au plafond, il fallait saisir la machette à deux mains, car la machette est lourde, longue comme un sabre, mais plus large et plus épaisse. L'un éclaire, l'autre tape, et son coup est fort. Il le faut, car le bambou cède et recule avec l'araignée. Des coups à fendre la tête d'un singe. Et toutes les araignées tremblent. Mais s'en aller, non, elles ne partent que blessées.
C'était « Équador » d'Henri Michaud, lu par Denis Podalydès de la Comédie-Française.